j'ai de bonnes nouvelles à vous donner de moi, à vous donner de moi. Le temps s'est arrêté de moudre des chardons bleus, des grains de beurre. On a pu se remettre à coudre tous les parpillements du cœur. On a ramené les tendresses autour de soi pour avoir chaud. Le malheur a changé d'adresse, il n'a pas laissé sa photo. J'ai de bonnes nouvelles, vole l'hirondelle. J'ai de bonnes nouvelles à vous donner de moi, à vous donner de moi. Le temps s'est arrêté de fondre, vous n'avez pas changé non plus. Hier je n'aurais su répondre à tout ce que vous auriez dû. Hier j'étais dans la tourmente, à plus savoir d'où vient le vent. D'où vient que parfois on enfante tout le contraire des enfants. J'ai de bonnes nouvelles, vole l'hirondelle. J'ai de bonnes nouvelles à vous donner de moi, à vous donner de moi. Mais quand il y a trop de peine qui vous traverse en courant, on ne voit plus ni bois ni laine, on oublie ce qui est vivant. Puis un jour le bonheur vous blesse, vous met le cœur en désabri. On se déchire de tendresse, mais ça fait un si joli bruit. J'ai de bonnes nouvelles, vole l'hirondelle. J'ai de bonnes nouvelles à vous donner de moi, à vous donner de moi. Acheminez-moi vos histoires, je les veux toutes à présent. Je suis comme un grand réservoir, le soleil est tombé dedans. Et je gratterai la lumière avec mes ongles s'il le faut, pour illuminer vos chimères, pour rendre vrai ce qui est faux. J'ai de bonnes nouvelles, vole l'hirondelle. J'ai de bonnes nouvelles à vous donner de vous, à vous donner de vous.
Ondes Femmes sur Radio Zoo 93.8, notre débat avec les femmes dans la presse. Nous recevons aujourd'hui Sabine Estier de la Tribune de Genève, ainsi que Simone Guille. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, on a appelé cette émission de façon un peu provocante. Y a-t-il une femme dans ce journal ? C'est une question un peu provocante, mais c'est une question un peu qu'on se pose. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans les journaux en Suisse ? Est-ce que, quand on se balade dans ces couloirs, est-ce qu'on voit beaucoup de femmes ?
Maintenant, on en voit beaucoup. Je pense qu'on en voit de plus en plus et qu'il y a même une énorme augmentation ces dernières années. Et on ne peut vraiment plus dire que ce sont des bastions masculins. Ce serait très exagéré aujourd'hui.
Alors moi, là, j'ai quelques chiffres de 82 qui nous disent que dans les grands journaux, sur 900 rédacteurs, il y a 120 femmes, soit 13%. Par contre, dans les journaux à tirage plus réduit, où le personnel semble moins payé, il y aurait plus de femmes, 28% de femmes. Est-ce que c'est des chiffres qui représentent la réalité ?
Je prendrai l'exemple de la Tribune de Genève. On est actuellement une dizaine de femmes sur une cinquantaine de postes. Mais c'est une évolution qui est très récente. Comme le disait Simone Guy, depuis quelques années, on voit pas mal de femmes arriver dans la profession. Depuis qu'il est arrivé comme rédacteur en chef, Daniel Cornu a engagé beaucoup de femmes. Donc nous sommes relativement jeunes et il y a peu de femmes qui ont plus de 40 ans. Il y avait jusqu'à il y a 5 ans seulement 2 femmes à la Tribune. Et c'est tout récent que des femmes jeunes arrivent. On est donc à peu près un cinquième de la rédaction, donc ça correspond à vos chiffres.
Et je pense que ça correspond aussi à la situation de la Suisse, du journal de la Suisse, je veux dire.
Mais il y a une chose qui est amusante à observer, c'est que comme c'était une profession essentiellement masculine auparavant, l'impression est qu'il y a énormément de femmes. Si on demande à nos collègues, ils ont l'impression, eux, d'un énorme changement et ils seraient presque prêts à dire, je pense qu'il y a 50% de femmes. Oui. Alors que quand on leur dit, mais regardez donc combien nous sommes vraiment, tout d'un coup, ils découvrent que c'est seulement un quart. Je prendrai aussi l'exemple de la locale où il y a beaucoup plus de femmes. C'est une rubrique où les femmes sont engagées plus facilement, probablement. Nous sommes 3 sur 10, mais on commence à trouver qu'on a l'impression que ce sont bientôt la majorité.
Mmh. Exactement la même chose pour la Suisse, oui. La rubrique genevoise, donc ce qu'on appelle la rubrique locale, devient très largement féminine. Et les autres rubriques, puisqu'on suppose qu'un quotidien est partagé grosso modo en rubriques étrangères, économiques, sportives, genevoises, parties magazines, rubriques suisses ou confédérations, les rubriques genevoises et confédérations sont les plus féminines. Et puis, les accès aux rubriques étrangères et économiques se font plus lentement. Cet accès se fait, mais il est plus lent.
Et ça correspond à la situation en Suisse, puisque d'après une étude de femmes et mass médias, on voit que 38% des femmes journalistes travaillent dans la rubrique locale et 25% dans la rubrique nationale.
Et à l'étranger, il y a de moins en moins de femmes.
De moins en moins, il n'y en avait pas.
Il n'y en a pas encore. Mais est-ce que c'est un choix des femmes, parce que peut-être que c'est plus facile de concilier vie privée, vie professionnelle quand on est sur place, ou est-ce que c'est un choix des rédactions de dire, bon, pour les chiens écrasés, les locales, les fêtes d'or de Madame Michu, d'accord, mais pour les grands problèmes internationaux, alors là, non, les femmes ne sont pas assez sérieuses.
Il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui me semble un peu impondérable dans cette histoire. Parce que théoriquement, il n'y a rien de bouché là-dedans, il n'y a pas de refus net. Et comme par hasard, tout se passe comme si cette rubrique considérée comme plus importante, plus sérieuse, plus prestigieuse qu'est la rubrique étrangère, celle de politique étrangère, bon, a beaucoup de mal à s'ouvrir. Mais il n'y a pas un motif qui est avancé, jamais. Simplement, on constate qu'il n'y a pas ou presque pas de femmes dans cette rubrique-là. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose d'un peu impondérable qui joue là, d'un peu un phénomène qui reste quand même un phénomène psychologique. Parce que je ne trouve pas de motif.
Moi, je dirais qu'il faudra voir dans 10 ans. Pour le moment, il y a eu très peu de femmes dans la profession. Bon, elles ont eu de la peine à entrer probablement dans certaines rubriques. Maintenant, on est beaucoup plus nombreuses. Si dans 10 ans, il n'y a toujours personne dans ces rubriques étrangères, économie, il y a quelques femmes, mais très peu aussi. Alors, effectivement, ça correspond. Il faudra se poser de sérieuses questions. Pour le moment, je dirais que c'est plus une question d'entrée récente dans la profession.
Oui.
Femme sur Radio Zone 93.8, y a-t-il une femme dans ce journal? Le débat que nous vous proposons ce matin en compagnie de Sabine Estier de la Tribune de Genève ainsi que de Simone Guy de La Suisse, du journal La Suisse. Si vous voulez nous téléphoner pour vous adresser directement à nos invités, n'hésitez pas à le faire en appelant le 023 depuis La Suisse 50 40 51 41.
On a parlé du rapport, on a évoqué un petit peu vie professionnelle, vie privée. Tu peux nous faire un portrait de robot de la femme journaliste actuellement?
Bon, selon une étude qu'a menée l'Institut de Fribourg, qui s'appelle Femmes et Mass Media, et qui est parue en 1986, il y a 42% de femmes célibataires. Enfin, 42% des journalistes sont célibataires, 36% sont mariés, bon, 18% divorcés. Parmi les célibataires, il y a bien sûr, et les divorcés, il y a bien sûr un pourcentage important qui vivent en union libre. Ce qui me semble intéressant, c'est quand même le nombre très faible de femmes mariées. Et ça correspond à mon expérience personnelle. La plupart de mes amis, de mes collègues, ne sont pas mariés ou bien elles n'ont pas d'enfants. Et très, très peu ont un enfant. J'en connais une qui a moins de 30 ans qui a un enfant, une autre qui a un peu plus, qui a 33 ans et qui attend son premier enfant. Et il y a peut-être Anne-Marie Lay qui est au Journal de Genève, qui a eu qui a une fille, je crois. Sinon, les femmes ont très peu d'enfants, les femmes journalistes.
Ça me semble, oui, évident qu'il y a quelque chose de très difficile à concilier. Moi, j'ai pratiquement commencé ce métier après avoir élevé mes enfants. On peut imaginer qu'on fait ce métier avant, mais comment concilier des horaires extrêmement souples, une vie familiale restreinte, avec le fait de garder un mari et des enfants? On n'a jamais répondu à cette question, on n'a jamais trouvé de solution satisfaisante à cette question-là, en tout cas. Moi, j'en vois pas.
Déjà, pour les hommes, la vie familiale est difficile. Le journalisme est le métier dans lequel il y a le plus fort taux de divorce des professions en Suisse. Pour les femmes, la question devient, à mon avis, impossible. Effectivement, il y a plusieurs collègues qui ont eu des enfants, mais elles sont entrées dans la profession après. Il y a aussi le cas de Françoise Buffat, qui est devenue journaliste une fois que ses enfants étaient relativement grands. Personnellement, je ne vois absolument pas comment je pourrais avoir un enfant en continuant au poste que j'ai. Il faudrait probablement que je change complètement de... Soit que j'arrête de travailler par rapport à ce poste, soit que je trouve un arrangement différent.
Oui, c'est une situation qui est quasiment cruelle, je dirais, parce que c'est vraiment terrible. C'est normal d'avoir envie d'avoir des enfants et c'est terrible d'être vraiment obligé de choisir, que la question se pose comme l'un ou l'autre. C'est des choix très cruels, mais on n'arrive pas à sortir de ce choix.
Quelques arrangements sont possibles, mais il faut alors se mettre un petit peu en retrait de la profession pendant quelques années. Je pense au cas de la chronique judiciaire qui a été choisie au Journal de Genève par Sylvie Arcevert et qui, elle s'est spécialisée dans ce domaine, ce qui lui permet, pendant les premières années de son enfant, de travailler un peu moins.
Voilà, on voit des journalistes qui deviennent, par exemple, pigistes, qui cessent d'être employés par une rédaction, qui deviennent libres et pigistes. Ça veut dire qu'elles travaillent beaucoup moins, qu'elles n'ont plus de revenus assurés et qu'elles travaillent juste de manière à ne pas se faire oublier, de manière à ce que la profession sache encore qu'elles existent, mais en gagnant vraiment très peu pendant que leur enfant commence à grandir, par exemple. Ce qui leur permettra, après quelques années, de revenir en n'ayant pas perdu tout ce qu'elles avaient acquis comme expérience auparavant.
Mais est-ce que vous pensez que c'est impossible d'envisager le mi-temps dans le journalisme? Parce que c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement parce que c'est le métier qui l'oblige ou bien c'est les structures qu'on a décidées qui doivent rester comme ça?
On peut l'envisager. Bon, il faut un peu surmonter des préjugés pour le faire accepter. Mais ce n'est pas une solution qui me semble très heureuse parce que Elle n'est pas très réaliste. Il faut quand même se tenir au courant de tout. Si on passe la moitié de son temps à vraiment bien être, continuer d'être bien au courant de tout ce qui se passe dans la rédaction, on a vraiment tellement peu de temps pour travailler que ça devient un peu absurde à la limite. Et puis, il y a une question de coordination avec une équipe. C'est quand même pas un travail qu'on fait seul. Il y a beaucoup de travail d'équipe là-dedans. Et être là sans être là, être là selon des horaires qui ne peuvent pas être fixes, il faut être disponible, il n'y a rien à faire. Il faut être disponible, un peu n'importe quand. Donc un mi-temps est réellement difficile à aménager.
Et d'autre part, rédactions, ils sont opposés, enfin les directions, ils sont opposés. À la Tribune, le mi-temps n'est pas considéré comme une solution possible. Il y a eu un seul cas, c'est un homme d'ailleurs, mais on vient de lui dire que maintenant ça ne va plus et qu'il doit reprendre un travail à temps plein ou s'en aller. C'était d'ailleurs une situation où il était marginalisé parce qu'il ne pouvait pas. Il n'était pas vraiment intégré. Il arrivait une semaine, il travaillait donc une semaine sur deux. Le premier jour, il fallait qu'il se remette dans le bain. Il n'était pas vraiment intégré dans la rédaction. On lui a souvent fait faire du secrétariat de rédaction, c'est-à-dire la mise en page, l'édition. C'est un travail qui a un horaire fixe. On commence à 2h de l'après-midi, on finit à 10h, par exemple, et on suit toute la mise en page d'une rubrique. Donc c'est un travail limité, ponctuel, qui peut alors être fait à mi-temps. Mais ça se résume, les possibilités de mi-temps dans le journalisme sont limitées.
On a aussi une expérience chez nous, c'était une personne qui n'élevait pas ses enfants, c'était une personne qui voulait travailler à mi-temps pour le journal et à mi-temps pour la radio. Et elle y a mis fin aussi. C'était aussi un échec parce que personne n'était content. Au journal, on avait toujours l'impression qu'elle n'était jamais là quand on avait besoin d'elle. Et puis, elle avait aussi l'impression qu'on lui demandait toujours des choses à contre-temps. Toujours cette question d'horaire qui doivent absolument être souples.
Y a-t-il une femme dans ce journal, Sabine Esté et Simone Guy, pour en parler?
Je lis aussi, j'ai quelques chiffres là sur les femmes dans les médias. On y lit que les femmes ont un niveau de formation supérieur que les hommes. Est-ce qu'elles sont mieux payées pour cela?
On n'est pas payé en fonction de sa formation, on est payé en fonction du poste qu'on occupe. Sur la formation, on sait qu'une femme sur deux a fait des études universitaires, une femme journaliste, ce qui est beaucoup plus que les hommes. Les trois quarts des femmes journalistes ont une maturité. Et puis depuis le début des années 80, on engage pratiquement, enfin, mais ça c'est valable aussi pour les hommes, plus que des universitaires. Mais effectivement, globalement, les femmes ont une formation bien meilleure, enfin plus poussée que les hommes. Maintenant, avoir une licence universitaire n'est pas encore le gage d'être un bon journaliste. Et c'est en fonction du poste qu'on occupe qu'on est payé.
Bien, maintenant, j'aimerais un peu revenir au contenu des journaux. En tout cas, comme lectrice des journaux, quand on ouvre la Tribune ou la Suisse, de plus en plus, on sent une direction des journaux. On appelle ça les 3 S, je crois, sport, sexe et sensationnalisme. Et il y a un peu une tendance de l'information vers ça. Alors, comment est-ce que là-dedans, on se situe comme femme? Est-ce que vous pouvez vraiment vous exprimer comme vous voulez, comme vous sentez les choses? Ou est-ce qu'il y a une espèce de carcan qui se forme, qui se crée? Bon, on sait bien qu'il y a une censure, une autocensure, qu'on n'écrit pas n'importe quoi, qu'on ne dit pas n'importe quoi, ça c'est normal. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on voudrait dire les choses autrement et que le style du journal nous impose de le dire d'une certaine façon?
Moi, j'ai l'impression d'une liberté qui est quand même considérable. Il y a toute une partie de l'information. Il faut s'entendre sur dire ce qu'on veut et exprimer ce qu'on veut. Il y a toute une partie de l'information qui est simplement, où on joue simplement le rôle de courroie de transmission. On a une information, on la transmet et on ne se sent pas affectivement ni moralement impliqué dans une chose qui nous concerne d'une façon très personnelle. On essaye de faire un travail là aussi correct et honnête que possible. Et puis une autre série de sujets, ça bon, c'est de cas en cas, où on se sent impliqué d'une certaine manière à titre personnel pour n'importe quelle raison qui peut tenir à son affectivité personnelle, à ses sujets d'intérêt très personnel. Bon, alors là, on va donner à ces sujets un éclairage, à la limite presque sans faire exprès. Enfin, mieux vaut savoir ce qu'on fait et savoir si on donne un éclairage ou si on n'en donne pas. Enfin, d'être un bon professionnel, je pense, c'est de savoir exactement ce qu'on fait. Mais il y a beaucoup de possibilités de donner des éclairages. Il y en a tellement que ça peut même être dangereux parce qu'il ne faut pas en profiter, il ne faut pas en abuser nettement. Quand on travaille dans un journal d'information, il faut être honnête et faire de l'information et ne pas mettre ses opinions partout. Mais il y a quand même une grande possibilité de donner, déjà dans le choix des sujets, il y a 1012 manières de donner des éclairages. Et ça, c'est une très large liberté que je me sens là.
Je crois qu'on constate quand même qu'il y a un glissement vers le sensationnel. Ça se sent très fort dans les quotidiens Genevois depuis l'arrivée du matin. Parce qu'il y a eu une concurrence. On nous a poussé à aller aussi vite que le matin. On n'avait pas telle information. Et dans une direction sensationnaliste, je penserais au viol d'une élève au cycle d'orientation qui n'aurait pas été révélé ou dont la tribune de Genève n'aurait pas parlé si le matin n'en avait pas fait la veille une affiche. Alors bon, on peut critiquer ce glissement aussi, on n'est pas obligé de suivre ce que fait le voisin, le concurrent, mais ça a entraîné un léger glissement. Et ce glissement, je le sens aussi avec la Suisse, enfin, et l'ensemble des journaux, où de plus en plus, je pense particulièrement à la rubrique locale, les journalistes sont sous pression pour amener une information très vite, qu'importe qu'elle soit vérifiée, contrôlée, il faut que tout soit là pour le soir même ou le lendemain et en faire une grande affiche.
Oui.
Moi, j'ai été particulièrement choquée par l'histoire de l'enlèvement d'un bébé. Et surtout de la plainte, la mère d'un enfant est venue se plaindre que son enfant était à l'hôpital et que l'on ne pouvait, que les médecins ne voulaient pas lui laisser reprendre. En lisant cet article, moi j'étais extrêmement mal à l'aise parce que bon, c'était une affiche, c'était une tête de page, grande photo. Et au moment où on décrit les blessures de l'enfant, je me suis dit, mais c'est pas possible. Un bébé ne se fracture pas le crâne, ne s'ouvre pas, enfin ne se casse pas les bras, enfin, je ne sais plus ce qu'il avait, si on a, en tombant simplement du lit. Et j'ai immédiatement eu le doute qu'il avait été battu. Et c'est effectivement ce qui était le cas. Et cette femme était une femme un peu paumée. Et j'ai trouvé vraiment manquer de toute déontologie que d'étaler ce problème. Cette femme qui est un peu l'histoire de cette femme, même si c'est elle qui est venue à la rédaction, elle qui a demandé à raconter ses malheurs, j'ai trouvé que ça n'était pas correct d'en faire une histoire à étaler pour toute la République. Et là, et pourtant il y a deux personnes qui l'ont interviewée, donc ils étaient deux. Le chef de rubrique a bien dû lire aussi cet article. Personne n'a eu le réflexe de vérifier peut-être auprès de l'hôpital et des médecins pourquoi est-ce qu'on n'avait pas voulu que l'enfant soit repris. C'est allé trop vite, tout a été fait trop vite.
C'est un grand défaut de la presse quotidienne, ça.
Ouais. Et ça touche ça touche la tribune, la Suisse.
La presse quotidienne veut cette rapidité et c'est effectivement quelque chose qu'on regrette souvent, même s'il se trouve toujours des journalistes dans chaque journal pour faire ce travail-là. Et en somme, être d'accord d'aller aussi vite que ça, en sachant bien que l'information n'a pas été creusée convenablement. Et bon, le lendemain, on sent que parmi les hommes de la rédaction aussi, il y en a plusieurs qui sont pas très à l'aise et qui regrettent que qu'on ait fait un grand boom avec une chose qui n'était quand même pas correctement traitée.
Toujours est-il que presque tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines, il y a un grand événement de genre qui sort. Il y avait aussi l'enlèvement de cet enfant au Grand Lancy. Voilà. Quelle est votre marge de manœuvre? Parce qu'on peut se poser la question quand on aborde, par exemple, ce cas précis. Je pense que vous en souvenez, un enfant a été enlevé. Et puis, bon, c'était un problème de séparation, de garde d'enfant. C'est vrai que c'est un problème d'actualité. Le divorce, c'est un fait de société. On peut se demander... pourquoi on n'en parle pas différemment? Pourquoi on n'essaye pas de faire des enquêtes, de proposer des réflexions? Parce que c'est vrai qu'il faut que la société s'adapte, change ses normes. Quelle est votre marge de manœuvre pour proposer d'autres choses que simplement des faits et puis rien derrière les faits?
On peut toujours proposer d'autres choses. Il faut y mettre de l'initiative et du courage pour faire le travail. Proposer, il n'y a pas de problème. Moi, je ne travaille pas dans la rubrique locale, donc je ne suis pas soumise à cette pression de la rapidité à tout prix. Et on peut toujours prolonger.
Mais est-ce qu'il y a de la place?
Je crois qu'il y a quand même... On peut proposer une enquête de fond sur les problèmes de séparation, mais on ne sait pas du tout si on aura le temps de la faire. Est-ce qu'on nous donnera le temps de la faire? Ça, c'est une question. Et puis, de toute façon, il y a la volonté de donner de l'importance aux faits divers et mais aux faits divers bruts finalement, parce que aller plus loin que le fait divers, essayer de voir si c'est un cas particulier, si ça regroupe une tendance sociale, ça implique du travail, du temps, des statistiques. Alors ça me semble difficile. On peut proposer par ailleurs une enquête. Mais au moment où le fait divers arrive, il faut en parler, il faut le traiter. Moi, je ne suis pas soumise à cette pression pour le fait divers, puisque je m'occupe de la politique genevoise, mais je suis soumise à cette pression pour la politique genevoise. Et je donnerai une anecdote. Le PDC nous a convoqués il y a quelques mois pour une conférence de presse express. On était convoqués pour le lendemain. Comme c'était la période où l'on parlait beaucoup des candidatures au Conseil fédéral, on s'est dit tout de suite, ça y est, le PDC présente quelqu'un au Conseil fédéral, Jean-Philippe Maître ou Guy Fontanet. Et puis, il n'était pas possible d'attendre la conférence de presse. Il fallait tout de suite pouvoir donner l'information. Alors, j'ai téléphoné à deux ou trois personnes du PDC en disant, alors ça y est, vous lancez Guy Fontanet, parce que je savais, enfin Jean-Philippe Maître avait affirmé plusieurs jours auparavant qu'il n'était pas candidat. Et ces gens n'ont pas démenti mon information, ils ont dit, vous verrez bien à la conférence de presse, mais ils ont confirmé que ça n'était pas Jean-Philippe Maître. Alors j'ai fait un petit papier, quand même un petit peu interrogatif, en disant, ben voilà, c'est Guy Fontanet qui probablement est candidat. Mais j'ai fait très petit pour éviter que ce soit mis à l'affiche, mais c'était quand même en une, avec photo. Et ça a quand même été mis à l'affiche, candidat probable au Conseil fédéral. Alors là, c'était la pression qui fait que finalement, on a annoncé par le glissement entre l'article qui était un peu interrogatif, le titre qui l'était beaucoup moins, et l'affiche qui était carrément affirmative, on a annoncé quelque chose de faux, parce qu'il fallait aller très vite. Et c'est quelque chose que j'ai un peu regretté ensuite de ne pas avoir été assez prudente, d'avoir pris le fait que mes interlocuteurs n'ont pas démenti mes propos pour une confirmation. Tous les moyens sont bons, mais pas...
quand j'appelle.